7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, vendredi. On met le focus sur l'école et plus particulièrement sur l'école des enfants migrants. Ils sont 52 000 en France à être scolarisés. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, de Somalie, du Nigeria, du Brésil, du Mali. Comment la France accueille-t-elle tous ces enfants, sachant que la scolarité est un devoir de 6 à 16 ans? Des classes d'accueil existent depuis maintenant 1970. Ça avait été créé à l'époque pour les boat people, pour renforcer l'apprentissage du français. Leur but, intégrer les classes primaires ou secondaires, mais ces classes sont très peu connues du grand public. Et on a eu envie aujourd'hui d'aller voir ce qui se cache derrière, comment se déroulent ces formations et est-ce que ces jeunes adhèrent à la notion de réussite à la française. On en parle aujourd'hui avec deux invités EES, donc deux femmes. Je vais commencer avec vous, Lauriane Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aujourd'hui pour le magazine Phosphore et vous avez écrit ce livre « Écrire liberté à l'école des enfants migrants » aux éditions Les Mieux. C'est donc vraiment une enquête de terrain. Vous avez passé un an à découvrir ces classes d'accueil.
C'est ça, un an à arpenter une dizaine de classes, dont une particulièrement au lycée Bergson.
Dans le 19e, ça. Donc, on suit mois par mois le parcours de ces migrants, leurs histoires personnelles, le travail des enseignants. Vous allez nous raconter un peu le résultat de votre enquête. Et en face de vous, il y a Peggy Lelégard-Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, vous êtes, je dirais, vraiment en plein dedans, puisque vous êtes professeur en lycée professionnel. Vous enseignez où?
Alors, je renseigne au lycée professionnel Maria de Rennes, donc auprès d'une 3e UPE2A. Depuis maintenant, 6 ans, mais j'enseigne depuis 22 ans.
Alors, voilà. UPE2A, un jargon administratif pour dire...
Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Donc, c'est-à-dire un élève allophone, c'est un jeune...
Deuxième nom barbare, allophone, voilà. C'est un...
c'est vrai que beaucoup de personnes posent la question, puisqu'ils n'ont jamais entendu ce terme. Donc, un jeune allophone, c'est un jeune qui arrive dans un pays d'accueil, qui veut s'y installer, mais dont la langue pratiquée n'est pas sa langue première.
Donc voilà. Pour la France, et donc il ne parle pas le français.
Voilà, ou il peut être un peu francophone, mais on ne parle pas français dans certains pays d'Afrique comme on peut le parler ici. Et les difficultés seront davantage à l'écrit et au niveau de la compréhension, puisque la pédagogie est tout à fait différente aussi en Afrique.
Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les primo-arrivants africains et la voie professionnelle, réussite ou échec » aux éditions de l'Harmattan. Alors est-il plus difficile de réussir à l'école quand on est primo-arrivant africain? On va voir ça avec vous. Oui. On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et vos réactions sur la page Facebook de l'émission également. Alors, il y a pour l'instant un message que j'ai envie de vous donner, puisqu'il y a Daniel de Kinshasa qui pense que lui, il voit une faible fréquentation de l'école par les enfants migrants d'une manière générale. Et lui, il pense qu'il y a une dimension psychologique qui n'est pas vraiment prise en compte dans les pays d'accueil. Il faut envisager et connaître le parcours de ces enfants et que souvent leur état psychologique quand même suite à des guerres a été très affecté et ça va bien sûr influer sur la scolarité de l'enfant et parfois ça peut expliquer qu'il n'aille pas très loin dans ses études. Merci pour ce témoignage Daniel de Kinshasa. Continuez de communiquer sur Facebook ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 deux fois.
7 milliards de voisins.
Le monde est un village planétaire.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
On est unis dans la diversité.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà, d'accord. C'est
Alors, avant d'entrer dans ces classes d'accueil de ces enfants venus d'ailleurs, est-ce qu'on peut les compter? Alors, j'ai avancé le chiffre de 52 000 en France qui étaient scolarisés. Ça, c'est un chiffre de 2014-2015. On en est où exactement aujourd'hui, Lauriane, Clément?
Je pense qu'on en est toujours à peu près au même nombre. On n'a pas les derniers chiffres de l'éducation nationale. Ça arrive toujours un an plus tard. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, mais à peu près 52 000.
Et combien de classes d'accueil, alors, partout sur la France?
Alors, Peggy, sur la France, il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même deux académies où les jeunes primo-arrivants sont, on dira, surreprésentés. Donc, c'est l'Académie de Paris et également tout ce qui est Seine-Saint-Denis. Voilà. Sinon, dans de nombreuses académies, il n'existe pas forcément de dispositif spécifique. Moi, j'ai eu un ancien élève, donc mineur isolé, qu'on appelle maintenant les jeunes non accompagnés, qui a été envoyé il y a 2 ans à Poitiers parce qu'on lui avait trouvé un logement. Mais il n'avait pas d'école ou de dispositif spécifique, donc on l'a intégré, inclus directement en troisième prépa professionnelle, ce qui a été quand même très difficile pour lui. Et il arrivait aussi en province où il était, comme il me disait, le seul noir du collège.
Alors on voit bien, et il y a une obligation en tout cas de scolariser ces jeunes migrants quand ils arrivent en France. C'est l'obligation de 6 à 16 ans. Reste à voir dans quelles conditions, on va le voir avec vous. Est-ce qu'on peut voir déjà au départ comment ont été créées ces classes d'accueil Lauriane Clément?
Donc on les a créés dans les années 70, comme vous l'avez si bien dit, pour les boat people. Donc l'idée, c'était enfin de trouver une solution pour permettre à ces jeunes d'être intégrés au système français. Et l'école, c'est quand même un maillon clé. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de les créer, mais force est de constater que 47 ans plus tard, on ne les connaît pas vraiment, ces classes, mais pourtant elles existent. Et donc pour répondre à votre question tout à l'heure, il y en a dans plus de 9000 établissements en France. Après, c'est vrai que c'est pas toujours aussi bien disséminé et qu'en France, qu'à Paris en tout cas, on a la chance d'en avoir 124. Ou 134 cette année, ça ne fait qu'augmenter. Mais c'est une exception.
Alors, dans le jargon administratif, donc on les appelle les UP et 2A. Donc, on va peut-être dire classe d'accueil. Pour nous, c'est peut-être plus simple. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très connu hein, des gens, même des parents d'élèves ou même des enfants sur place, parce qu'on ne le dit pas haut et fort que ces lycées ou ces collèges ou ces accueils des enfants. Vous l'avez vécu, ça, Lauriane Clément, dans vos études?
Dans les dizaines de classes que j'ai vues, effectivement, elles n'étaient pas intégrées de la même manière dans l'établissement. Au lycée Bergson, donc à Paris, où j'ai passé un an régulièrement, là, il y avait la chance que ces classes soient vues d'un bon œil. C'était considéré comme une force pour l'établissement, donc c'était beaucoup plus admis et on en parlait beaucoup plus. En revanche, dans certains établissements, c'est considéré comme une faiblesse, comme une difficulté pour faire baisser le niveau. Donc certains directeurs d'établissement se disent que les parents vont être inquiets, vont mal voir cette classe et donc ils la cachent. En tout cas, ils n'en parlent pas vraiment. Ils s'arrangent pour que les emplois du temps des élèves ne soient pas forcément en concordance avec les emplois du temps des classes ordinaires. Donc parfois, ils ne se rejoignent même pas en récréation, ce qui est quand même dramatique. Donc Tout dépend.
Parce que le but, c'est quand même, cette année, vous allez nous le dire, hein, Peggy Lillegardiallo, puisque vous êtes professeur, le but de cette année, quand même, c'est une première année d'intégration, d'apprentissage du français, mais aussi d'intégration dans la culture.
Tout à fait. Les challenges sont énormes. Moi, donc, j'interviens en UPE2A, lycée professionnel, donc pour des élèves qui sont arrivés tardivement et qui vont devoir s'orienter rapidement. Donc, ils vont devoir acquérir des bases de français ou les renforcer.
Ils arrivent, ils ont déjà 13, 14, 15, 16 ans.
Alors,
c'est ça,
pour les UPE2A, lycée professionnel, ils sont sur leur 15e année, mais ça peut aller jusqu'à 19 ans. Voilà. Donc, une très grande hétérogénéité des parcours, puisqu'on peut avoir des élèves qui sont déjà plus ou moins francophones du fait de l'histoire de leur pays. On a aussi des grands débutants. Nous avons donc des apprenants avec toute une histoire personnelle, sociale, différentes catégories socio-professionnelles, puisqu'en UPE2A, ils sont affectés aussi en fonction de leur domicile, ou du moins de leur adresse. Voilà.
Ça veut dire que vous pouvez aussi bien avoir un fils, dit n'importe quoi, de diplomate qu'un enfant de migrant qui travaillait dans la charpente, par exemple.
Tout à fait. Ils ont une histoire scolaire tout à fait différente. Moi, l'année dernière, par exemple, j'avais un jeune qui n'avait connu que l'école coranique, et un jeune qui a été à 6 mois du baccalauréat informatique dans son pays. Plus de garçons que de filles en général, une histoire familiale aussi, très différentes. Bon, 80%, c'est vrai, des élèves sur Paris vivent avec leur famille ou au moins un parent, une personne connue. 20% sont non accompagnés. Mais certains retrouvent aussi des parents qui n'ont pas vu depuis 6, 9, voire 15, 16 ans. Donc, apprendre à connaître aussi sa mère ou son père qu'on a idéalisé. Et arriver à l'adolescence, tout ça est très difficile.
C'est un sacré melting pot, en tout cas. Voilà. Vous le définissez bien aussi, hein, Lauriane Clément, hein, quand vous découvrez ces classes, avec des origines, des parcours de vie assez incroyables. Votre première journée que vous avez découvert au lycée Bergson, par exemple, quels souvenirs vous en gardez, hein, de cette classe ?
Je pense que j'ai été aussi intimidée que les élèves l'étaient avec moi. On s'est retrouvés face à face, donc je me suis retrouvée face à une dizaine de nationalités différentes, des jeunes qui venaient d'arriver, qui ne savaient pas très bien pourquoi je venais ici les voir, qui ne s'imaginaient pas vraiment comme les héros d'un livre. Donc c'était un souvenir émouvant. Après, on a appris à se connaître au fil des mois. Je suis devenue un peu plus leur confidente, leur grande sœur, et c'est ça qui a été très intéressant pour moi pendant cette expérience.
Une petite galerie peut-être des personnages, nous dresser un peu les enfants que vous aviez en face de vous.
Donc les principaux dont je parle dans le livre, il y a Osama, qui est un réfugié syrien qui a dû quitter son pays. Il y a aussi Nazir, qui lui est un réfugié afghan, donc qui a lui aussi fui la guerre. Il y a aussi Lisa, qui est venue en France, donc qui a quitté son Algérie natale pour faire des études meilleures ici. On retrouve aussi Mona, une réfugiée bangladaise. Bon, il n'y a pas que des réfugiés non plus, hein. Il y a aussi des élèves de toutes les nationalités. Moldaves, chinois, on en retrouve vraiment beaucoup chaque année.
En grande majorité aujourd'hui, c'est la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie.
Très, très, très varié. En règle générale, alors c'est vrai que là, mon dispositif n'est pas encore complet. Nous sommes à 30-40% du taux de remplissage parce que les jeunes n'arrivent pas tous pendant les vacances scolaires d'été, bien sûr.
Sinon, ce serait trop simple.
Voilà.
C'est échelonné sur toute l'année.
Voilà. Généralement, moi, j'ai entre 15 et 17 nationalités différentes. Donc, quasiment tous les continents sont représentés. Donc, c'est très varié. Europe de l'Est, Afrique, Amérique du Sud. C'est ça qui est riche et c'est ça qui les fait progresser également très vite.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment la richesse de ces classes. Et on trouve beaucoup de solidarité entre eux, justement, par rapport à leurs histoires, leur culture. Oui. Ça, c'est assez, assez rare d'assister à ça.
Oui. Alors, comment se déroulent ces formations, hein, justement, dans ce melting pot, hein, tel que vous nous le décrivez? On pénétrera dans une salle de cours tout de suite après Strong, c'est un titre de London Grammar. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line. Thank you.
I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle.
Quelle école pour les enfants venus d'ailleurs, les voisins, les voisines. Sachez qu'en France, il existe des classes d'accueil pour les enfants qui ne parlent pas ou pas vraiment bien le français. On les appelle donc les UPE2A, ça c'est le jargon administratif, on va garder le terme de classe d'accueil avec Peggy Lélégard Diallo qui a écrit Les Primo arrivants africains et la voie professionnelle réussite ou échec chez l'Harmattan et Lauriane Clément écrire Liberté à l'école des enfants migrants chez Le Mieux Éditeur. Alors vous avez envie de réagir sur le témoignage de Daniel hein, qui nous écrivait de Kinshasa sur la dimension psychologique. Lauriane, vous avez dressé un peu la galerie de portrait de tous ces personnages qui sont dans vos classes. Ils viennent de partout, ils ont souvent traversé des parcours, des voies migratoires difficiles. C'est vrai que ça influence sur la scolarité. Est-ce qu'on en tient suffisamment compte ?
Je trouve que non, on n'en tient pas suffisamment compte malheureusement. Les assistantes sociales et les infirmières de ces établissements sont débordées. Elles n'ont pas de soutien en plus hein, par rapport à ces élèves. Donc elles n'ont pas la possibilité de leur accorder plus d'attention qu'aux autres. Et pourtant, qu'ils aient traversé la Méditerranée ou qu'ils aient simplement, entre guillemets, quitté leur famille et leur pays, c'est quand même des chocs énormes pour des enfants et des adolescents. Et on ne répond pas vraiment à ces questions. Et ce sont des obstacles à leur scolarisation, malheureusement.
Oui, Peggy, oui. Vous vivez alors, ça au quotidien.
Tout à fait. Alors, donc je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, quand je parlais de l'apprenant à apprendre avec toute son histoire, moi, je voudrais rebondir sur la fonction du professeur. Moi, je ne me considère pas juste comme transmettrice de connaissances, de savoir, savoir-être, savoir-faire. J'accorde autant d'importance à l'apprenant parce qu'il faut le prendre avec tout son vécu. Et son vécu est difficile, très difficile, voire insoutenable.
Il y a des chiffres d'ailleurs qui l'attestent, la dernière étude de l'UNICEF hein, que vous avez envie de commenter. Hein.
Oui, tout à fait. La dernière étude de l'UNICEF a mis en évidence que tous les jeunes qui utilisent les moyens de traverse et qui arrivent de manière illégale en France, pour 77%, subissent des violences, donc physiques, sexuelles et autres, et qu'il y a une surreprésentation des jeunes subsahariens qui subissent ces violences.
Il y a des témoignages, ils ont traversé par exemple la Libye, ils ont été forcés à travailler, alors moi, c'était des vrais esclaves.
Hein. Tout à fait, ouais. Moi j'ai d'anciens élèves enfants soldats, j'ai eu d'anciens élèves qui avaient été à la limite du viol lors de leur voyage. J'ai des élèves qui ont mis 2, 3, 4 ans à arriver en France, donc en partant à 13 ans de chez eux, donc seuls. Donc ceux qui ont le plus souffert ne sont pas forcément les personnes qui s'expriment le plus sur ça. C'est vrai que un suivi ethnopsychiatrique serait nécessaire pour beaucoup.
Ouais, vous parlez d'un choc de la migration, donc en tenir compte effectivement dans la manière d'enseigner, d'être avec eux pour les amener à la langue française. Alors vous restez avec nous, hein, Lauriane Clément et Peggy Lélégard Diallo, parce qu'on va se retrouver dans 3 minutes. Là, ça va être le moment du flash. On verra effectivement est-ce qu'ils arrivent à se faire une place dans cette école française, dans cette société française à travers ces classes d'accueil. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 60 71 avec vos questions. L'émission continue dans 3 minutes. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on part à l'école des enfants venus d'ailleurs, du Mali, de Syrie, du Bangladesh, d'Afghanistan, du Nigeria. En France, pas moins de 52 000 enfants migrants sont scolarisés. C'est une obligation entre 6 et 16 ans, il faut le préciser. Et beaucoup sont intégrés dans des classes d'accueil en vue d'intégrer l'année d'après des classes françaises. Alors comment gérer l'hétérogénéité des classes ? Faut-il beaucoup de discipline, vous allez nous dire ça, puisque vous le vivez au quotidien, Peggy Lélégard-Diallo. Comment s'en sortent aussi ces enfants à l'école? Y en a-t-il qui deviennent de bons élèves et arrivent-ils à se faire une place dans la société française et laquelle? On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Nous sommes avec Lauriane Clément, donc, qui a écrit un livre sur les dispositifs d'accueil en France. Ça s'appelle « Écrire liberté ». À l'école des enfants migrants, chez Le Mieux Éditions. Donc, vous livrez une enquête d'un an de terrain, quand même, puisque vous avez passé cette année en région parisienne à vivre à l'intérieur de ces classes d'accueil. Et vous, Peggy Lélégard-Diallo, vous êtes professeure dans le lycée professionnel Maria de Rem, c'est dans le 17e à Paris, professeure en biotechnologie, option santé et environnement, donc dans ces classes, hein, dans ces dispositifs pour élèves allophones, donc pour ces élèves dont la première langue n'est pas le français. Et vous avez écrit « Les primo-arrivants africains et la voie professionnelle, réussite ou échec », c'est chez L'Harmattan. Alors d'abord, quelles sont vos motivations à vous en tant que professeur, Peggy, pour travailler avec ces primo-arrivants? Vous êtes volontaire, j'imagine, c'est un choix.
Oui, parce que je suis professeure de biotechnologie, option santé environnement, mais affectée sur un poste spécifique, français langue seconde, puisque j'ai passé la certification. C'est vrai que je viens de province et ma nomination sur l'Académie de Paris a changé ma vision de l'enseignement. Hein, puisque ce que j'ai pu constater et ce qui m'a choquée de prime abord, c'est la surreprésentation des populations migrantes en lycée professionnel. Voilà.
Mais vous parlez de ghettoisation, d'ailleurs, hein, de ces jeunes en lycée professionnel.
Tout à fait. Lorsque je suis arrivée dans l'Académie de Paris, j'ai été nommée donc, au lycée professionnel Chêne-Verme à Lézieux. Et à l'époque, sur 300 élèves, juste pour parler de couleur de peau, même si ça ne veut rien dire niveau nationalité, il devait y avoir un blanc. Voilà, dans l'établissement. Donc les jeunes le vivaient très très mal, autant les jeunes de seconde génération et de première génération. Comment peut-on, à l'âge de l'adolescence, s'identifier à la norme alors qu'on est concentré et stigmatisé comme jeune venant de l'étranger? Voilà. Alors moi, ça m'a interpellée et moi, je suis quand même assez ouverte, je suis issue d'un couple mixte aussi, voilà, j'ai deux enfants métis, l'interculturalité m'a toujours intéressée, donc je me suis formée à l'interculturalité pour justement favoriser ce lien avec les élèves, et du fait de la discipline que j'enseignais à l'époque en classe ordinaire, naturellement ils venaient me voir pour avoir des renseignements.
Alors on sent bien votre motivation qui vous a mené effectivement être professeur dans ces classes d'accueil. Oui. Lauriane Clément, vous en avez rencontré des professeurs comme Peggy. Oui. Vous parlez, vous, carrément de système D quand même dans les classes. Ils se débrouillent.
Oui. Hein. Ah oui, c'est vraiment le système D débrouille. C'est les professeurs et même d'ailleurs tout le personnel éducatif, infirmières, assistantes sociales qui acceptent d'en faire un peu plus que leur rôle pour aider ces jeunes et pour les accompagner au mieux. Donc je tiens vraiment à souligner dans mon travail l'engagement incroyable de ces professeurs. Pour moi, je les vois vraiment comme des héros de l'ombre. Donc bravo Peggy et bravo à tous les professeurs du PE2A, je tiens vraiment à le dire.
Parce que dans ce déroulé, dans cette année, en fait, il n'y a pas vraiment de programme. C'est vrai, c'est vraiment...
Peggy en parlera mieux que moi, mais le programme, c'est surtout de leur permettre d'apprendre le français au plus vite. Ensuite, le fait de ne pas avoir de programme défini, c'est aussi une richesse quelque part, car ils peuvent faire des projets. Moi, j'ai vu des ateliers de théâtre, des sorties pédagogiques. Dans la classe que j'ai suivie au lycée Bergson, ils ont même participé à un concours de nouvelles qu'ils ont gagné. Donc, ces jeunes qui ne parlaient pas français il y a quelques mois ont gagné un concours de nouvelles. Ils sont arrivés sur un podium présentés comme écrivains. C'est extraordinaire. Mmh. Et c'est ça qu'on peut voir dans ces classes. Et c'est pour ça que c'est aussi enthousiasmant.
Alors, puisque vous êtes professeur, Peggy, alors il y a l'apprentissage d'abord de la langue française, ça c'est l'objectif numéro un.
Oui, alors l'apprentissage de la langue française, alors français langue seconde est envisagé en tant que français, donc déjà de communication, donc il faut avoir du vocabulaire, des notions de grammaire, de conjugaison, savoir écrire. Hein, savoir le parler, mais aussi français de socialisation. Donc nous abordons tous les usages et coutumes en France, mais aussi avec toute la connaissance du patrimoine pour une compréhension des cours qui suivront. Et bien sûr, le français de scolarisation, ce qui est le plus difficile pour les jeunes, comprendre les consignes scolaires, apprendre à comprendre, un gros travail de méthodologie, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui viennent de systèmes scolaires qui fonctionnent différemment, où on leur demandait d'apprendre par cœur et de réciter, sinon ils étaient battus. Et connaître par cœur ne veut pas dire comprendre et appliquer. Donc pour eux, c'est presque une révolution pédagogique. Et c'est vrai que lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont venus en France, pour beaucoup, ils vont parler de l'école et ils apprécient énormément la pédagogie. Alors, moi, je rebondirais quand même sur ce qu'a dit Lauriane en disant qu'il n'y a pas de programme. Si, quand même, moi, j'ai des jeunes qui ont entre 15 et 19 ans, je me fie quand même au programme de 3e que j'adapte. Parce que je vais avoir 3 objectifs dans mon année, dans la finalité de les insérer socialement et professionnellement.
Ça, ce sont vos objectifs à vous, ce que je comprends bien.
C'est le professeur qui s'adapte.
C'est ça, c'est vous qui vous adaptez à la classe, mais il n'y a pas vraiment... Vous le notez dans votre livre, les professeurs sont quand même peu formés pour enseigner à ce type d'élèves. Alors, Yann Clément, vous pointez ça aussi.
Oui, et donc pour les jeunes professeurs qui atterrissent dans ces classes, même s'ils sont très engagés, très motivés, c'est vrai qu'ils peuvent parfois se sentir un peu démunis. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je pointe dans mon livre. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des inspections conseil. Donc, c'est vraiment pas de la discipline, c'est juste du conseil, leur permettre d'avoir un peu un cadre et d'avoir des expériences pour les aider dans cette mission qui est essentielle.
Tout à fait. Ben, c'est très déstabilisant pour les collègues qui sont amenés à intervenir en UPE2A, puisqu'ils se retrouvent face à des élèves parfois qui ne les comprennent pas. Donc, et c'est pas un problème cognitif, c'est juste un problème langagier. Donc, tous les professeurs qui interviennent en UPE2A doivent faire du français langue seconde, doivent faire du vocabulaire de matière, travailler les consignes. Tout le monde doit y travailler. Mais c'est vrai que c'est un gros investissement. C'est plus qu'un travail de formateur. Moi aussi, j'ai un diplôme de travailleur social. Donc, c'est vrai que j'ai cette ouverture qui fait que ma conception du métier ne s'arrête pas à la fin des cours.
Oui, elle est beaucoup plus large, et ça, vous le notez bien, Lauriane. Tous ces professeurs sont très investis, aussi en dehors de... Parce qu'il y a eu des problèmes de logement, il y a des problèmes d'argent, racontez.
Parce que, du coup, dans ces classes, il y a aussi des mineurs isolés, donc qui sont venus en France sans leur famille, et qui, eux, sont dans une situation quand même très difficile. Ils doivent trouver un logement social, ils n'ont pas de soutien pour les aider aux devoirs. Il y a aussi les jeunes qui sont venus avec leur famille, mais qui ont, par exemple, j'ai le cas de Mohana, qui est bangladaise, sa mère n'a pas pu venir en France, elle n'a pas été acceptée en France, donc elle est venue avec son père et ses sœurs. Et elle s'est retrouvée chef de famille en l'espace de quelques mois, à devoir gérer la cuisine, à devoir gérer la vie quotidienne domestique. Et c'est énorme pour une jeune fille de 16 ans.
Et d'autant plus, je crois, pour les jeunes hommes, parce que la majorité des jeunes non accompagnés sont des garçons.
Sont des garçons, oui.
Aussi, donc ils ont beaucoup de choses et un stress énorme. Le stress est un choc migratoire qui induit chez eux beaucoup de vulnérabilité, sachant que pour moi, ils sont à l'âge de l'adolescence, en pleine construction, ils sont plongés dans un univers qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent. Moi, je pense à une élève de cette année, à Chata, quand je lui demande de s'exprimer sur son ressenti, puisqu'on travaille beaucoup sur la connaissance de soi pour les aider à construire leur projet professionnel, elle me dit « mais je suis étonnée ». Tous les jours, elle est étonnée, effarée par ce qu'elle voit, les attitudes, les comportements, les manières de faire, parce que tout est nouveau. Et puis, il faut aussi parler des logiques ou pratiques racistes de certains. Donc, c'est des violences au quotidien qui peuvent vivre dans les transports ou autres, mais même au sein des établissements.
Voilà. Mais est-ce que du coup, leur motivation alors, à apprendre, puisqu'effectivement, ils sont complètement chamboulés de tout ce qu'ils découvrent, de tout ce qu'ils traversent, de tout ce qu'ils ont vécu, est-ce que ça demande, de votre part, par exemple, beaucoup de discipline ?
Pas trop. Non, franchement, il y a une telle volonté, ce nouveau départ, c'est le champ de tous les possibles. Et ils voient le champ de tous les possibles par l'école. Donc, ils sont tellement heureux d'être là, heureux, il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup de participation, ils veulent apprendre vite et bien, et parfois je leur dis, voilà, faut pas vouloir apprendre trop vite, je comprends pas, quand tu parles trop vite, il vous faut des bases solides, les choses vont venir. Mais ce sont des élèves très très volontaires, certains ont des comportements déviants, mais c'est lié à des passifs, lié à des soucis qu'il faut régler et qu'il aurait fallu régler de toute façon car ils ne sont pas encore en état d'étudier.
Oui. Et cette motivation, Lauriane Clément, ça vous a vraiment marqué.
Ça m'a vraiment marqué. Ouais. On ressent une solidarité entre eux, ils sont vraiment sérieux, ils sont déterminés et c'est grâce à ça qu'ils réussissent plus tard aussi.
Tout à fait.
Moi, je veux juste partager l'histoire de Nazir, donc le réfugié afghan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc lui, son rêve, en arrivant en France, c'était de devenir médecin. Donc dans cette classe d'accueil, il n'arrêtait pas de dire à ses professeurs « Je veux aller en première S, je veux aller en première S ». Vous imaginez bien le chemin à parcourir pour réussir à aller en première S. Pour finalement, en première scientifique, pour ceux qui ne savent pas le S. Bon, en tout cas, il a réussi à aller en première scientifique. Ses professeurs lui avaient dit « Au troisième trimestre, si tu as 15 en mathématiques, on reconsidérera ton choix ». Il est arrivé et maintenant il est en terminale scientifique, il s'en sort très bien et c'est ce jeune, il dormait en foyer, il était avec plusieurs jeunes qui faisaient du bruit, il ne pouvait pas travailler dans sa chambre. Mais avec cette force qu'il a eue, il est arrivé. Donc, c'est possible.
Alors, la question de la réussite scolaire, hein, est-elle une priorité pour eux? Est-il plus difficile aussi de réussir quand on est primo-arrivant? On va continuer après Paris Métèque. C'est Gaël Faye qui chante.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi, ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes. Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés. Des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatride, beau people, caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. We'll be right back.
l'école pour les primo arrivant en France, les voisins, les voisines. On est avec Peggy, Légard Diallo, les primo arrivants français, africains, pardon, et la voix professionnelle, réussite ou échec chez l'Harmattan, et Lauriane Clément, écrire liberté à l'école des enfants migrants, aux éditeurs, Le Mieux Éditeur. Votre définition en tant que professeur, Peggy, vous êtes beaucoup plus qu'un prof, vous préférez dire que vous êtes carrément un tuteur, c'est ça?
Je voudrais pas être prétentieuse, parce qu'en éducation nationale, on n'est pas non plus trop habitué à se vendre, mais je crois qu'en professeur du P2A, on a un rôle de tuteur de résilience. Voilà. Les jeunes attendent beaucoup de nous, mais on doit leur donner beaucoup. Et moi, j'ai un public aussi de lycée professionnel. Et le public du lycée professionnel est tout à fait différent des autres publics, où on n'est pas dans le clientélisme. Il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se forge pour que le jeune soit sécure, en milieu sécure, et pour pouvoir apprendre sereinement.
Donc vous l'aidez aussi à construire son projet professionnel.
Tout à fait.
Vous
donc,
avez ce rôle-là.
Tout à fait. Toute l'année, on travaille sur la construction du projet professionnel. Comme je vous ai dit, ils sont arrivés tardivement. Ils ont un an maximum pour s'orienter professionnellement. Ils poursuivront en lycée professionnel, en CAP ou en bac professionnel. Beaucoup n'ont pas réfléchi à des métiers où ils en connaissent peu, donc ils vont redire les métiers qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas tout ce qui est l'école française leur propose, donc il faut déjà leur faire connaître aussi le système, les différents diplômes. Moi, je les fais partir en stage. Nous travaillons beaucoup sur la connaissance de soi, les valeurs, pour que le métier soit compatible avec la personnalité de la personne. Depuis 3 ans maintenant, je travaille aussi avec l'association Ce que je veux faire plus tard, qui est intervenue déjà 2 ans gracieusement auprès de mes élèves, entre guillemets, ce ne sont pas les miens, mais c'est vrai que comme j'ai l'habitude de leur dire, je les traite comme mes enfants, ce ne sont pas mes enfants, mais je passe beaucoup de temps avec eux.
Donc, pour leur donner confiance, voilà, et aider de dessiner ensemble, voilà, effectivement, la suite. Alors, c'est vrai que c'est une question que deviennent ces élèves, c'est une question qu'on peut se poser, Lauriane Clément.
Oui, je tiens aussi à résumer un peu. Vous imaginez, en un an, ils doivent apprendre le français. Ils doivent comprendre dans quel pays ils vivent. Ils doivent soigner leurs blessures psychologiques et ils doivent en plus savoir s'orienter et trouver leur choix professionnel. Donc, c'est pour ça que je pense que toutes les deux, avec Peggy, on voulait vraiment montrer une image positive de l'immigration. Pour une fois, ça fait du bien de le dire. Alors bravo à ces jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Moi, les jeunes que j'ai suivis au lycée Bergson, ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont réussi à aller dans les filières qu'ils voulaient, que ce soit les filières générales ou technologiques. Ça correspond plutôt à leur choix. Oui. Après, je tiens à dire qu'il y en a quand même qui bataillent et qui sont laissés sur le bord de la route, car à partir de 18 ans, ils ne sont pas forcément pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc à ce moment-là, au niveau financier, ils ne peuvent ne plus du tout avoir de soutien financier du jour au lendemain.
Oui, parce que je me demandais ce qui se passait, voilà, effectivement, une fois que l'enfant a 18 ans.
Oui. Enfin, libre à eux de continuer à étudier s'ils le souhaitent, mais ils doivent trouver des moyens de se financer. Sinon, il y a aussi ils peuvent avoir un contrat jeune majeur de l'aide sociale à l'enfance, mais c'est pas attribué automatiquement, et c'est surtout pour des filières très courtes et professionnalisantes. Donc pour les jeunes qui sont en lycée général, en général ils se destinent quand même à des études
plus longues.
Et eux sont, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait?
Alors il y a Amadou qui nous pose une question, et il aimerait vous la poser, de Conakry. Il demande: les enfants migrants sans papier, comment ça se passe pour eux? Bénéficient-ils d'aide des ONG pour terminer leurs études?
Alors déjà, les enfants sans papier, ils doivent prouver leur minorité avant même d'avoir le droit d'aller à l'école. Bon, évidemment, quand on voit que ce sont des enfants, c'est plus facile, mais quand ils ont 16 ans, c'est difficile de se dire qu'ils sont mineurs. Donc pour ça, ils doivent passer des entretiens d'évaluation où ils doivent prouver leur parcours et prouver qu'ils ont moins de 18 ans. Et sinon, en cas de doute, il y a aussi des tests osseux sur leurs poignets. Et donc ces tests sont basés sur des enfants nord-américains des années 1930-1940, avec une marge d'erreur acceptée de 2 ans, donc pile l'âge où ça pose problème. Donc beaucoup sont laissés malheureusement sur le bord de la route, beaucoup sont mineurs et n'auront pas le droit d'aller à l'école.
Il y a aussi, oui, dans la manière d'enseigner, enfin, on le disait sur ces mineurs qui, des fois, n'ont plus de papier, et c'est aussi des vrais combats pour qu'ils continuent l'école.
Des vrais combats, moi, je pense cette année à deux jeunes qui ont 17 ans, qui sont sans papier, et qui sont très inquiets à ce sujet, qui m'en parlent, que j'essaie d'aider, d'orienter, puisqu'ils sont très volontaires, mais je sais que ça peut très vite ensuite les déstabiliser, parce qu'ils ont peur, pour certains, de sortir de chez eux, ils ont peur de découvrir la ville, qu'on les renvoie. Donc, il y a toutes ces craintes. Mais moi, je voudrais quand même rebondir, si vous me le permettez, sur la voie professionnelle, puisque la voie professionnelle, c'est une voie qui est quand même assez dévalorisée depuis de nombreuses années, et pourtant, c'est une voie de la réussite. Et moi, pour les jeunes qui sont arrivés tardivement, qu'on va vouloir orienter rapidement, le fait de construire avec eux leur projet professionnel, faire en sorte qu'ils se donnent les moyens d'obtenir l'école qu'ils souhaitent, le diplôme, qu'ils aient une orientation choisie, qu'on ait une orientation choisie,
même si, décide pas pour
même,
eux.
Voilà, même si c'est difficile, on va travailler, on va réussir, même si on met plus de temps.
Mais est-ce que la réussite scolaire, est-ce que c'est une priorité pour eux? Quel sens ça a d'ailleurs pour eux?
Tout à fait, la réussite scolaire est primordiale. Alors en premier, la réussite professionnelle, mais ils savent très bien que la réussite professionnelle passe par la réussite scolaire. Donc même si pour les familles, toutes ces notions sont floues parce qu'ils veulent que leurs enfants étudient, mais étudient quoi? Ils n'ont pas trop d'idées. Donc c'est vrai qu'on a un gros rôle à jouer. Le CASNAV propose l'école ouverte aux parents qui permet de comprendre le système scolaire et qui permet de suivre les enfants. Parce que quand on a aussi des jeunes adolescents qui vont parfois faire croire qu'il n'y a pas de travail, etc., c'est important que la famille soit impliquée. Parce qu'on leur demande beaucoup à ces jeunes, quand la famille est là, parfois ils parlent mieux français que leurs parents. Donc il y a toutes les démarches administratives qu'ils vont devoir faire. Ils vont peut-être manquer l'école parce que la maman ne parle pas, il faut aller voir l'assistante sociale ou autre. Donc il y a beaucoup de jalons qui sont lancés, qui voilà.
Alors j'ai envie qu'on écoute Victor qui nous appelle de Djamena, donc il est au Tchad. Bonjour Victor.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bonjour. Alors merci pour nous appeler. Vous avez eu alors le témoignage, vous avez visité des camps, effectivement vous étiez en mission dans des camps et vous avez vu l'école de ces migrants, racontez-nous.
J'étais en mission dans le cadre religieux vers le sud du pays, précisément à Gorée. Et là, dans le camp de réfugiés, il y avait trois camps. Nous étions dans le premier camp, et ce camp est nommé le camp de Dorolo. Là, les élèves étaient, la classe était bondée des élèves, et l'engouement était tellement grand. Dans les autres camps, nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez d'engouement. Et quand on s'est approché des parents pour s'inquiéter de la réalité, ils nous ont dit que la première préoccupation, ou bien la première de leurs préoccupations, n'était pas encore d'envoyer leurs enfants à l'école, mais plutôt d'avoir de quoi manger. Parce que, précisément, ou bien actuellement, ils ne sont pas encore pris en charge par les humanitaires et ils se lamentent.
Alors Victor, merci beaucoup pour votre témoignage. Ça, c'est vrai. Bon, en France, est-ce qu'on peut réagir aussi le fait que des familles sont dans des graves problèmes aussi de précarité, de pauvreté. Effectivement, la réussite de leur enfant, c'est important, mais en même temps, ça ne va pas de soi. Ils ont d'autres priorités à gérer que la scolarité des enfants.
Oui, c'est sûr. Et puis même les enfants eux-mêmes, c'est quand ils sont seuls, doivent aussi gérer leur logement, doivent aussi gérer plein de choses. Mais en tout cas, en France, on a au moins le mérite d'avoir ces dispositifs. Je tiens quand même à rappeler les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, donc, qui dit que dans le monde, seuls 50% des enfants ont accès à l'école primaire. Ils ne sont plus que 22% dans le secondaire et seulement 1% accédera aux études supérieures. Et aussi, moi, j'avais rencontré la porte-parole qui m'avait dit que la moitié de leur projet d'éducation dans le monde, donc au commissariat aux réfugiés, n'arrive pas à trouver de financement. Donc c'est quand même un sujet qui est crucial en France comme ailleurs.
Et plus pour terminer sur l'intégration de ces classes dans les établissements. Vous le disiez, certains les cachent un peu, on ne veut pas les voir. Et vous pouvez aussi considérer que ces classes sont aussi une force quand même pour les établissements qui les accueillent. J'aimerais qu'on termine là-dessus.
Absolument, ouais. Je le martèle dans mon livre et je martèle tous les jours, c'est vraiment une force. Ils ont beaucoup à apporter aux établissements, mais aussi plus généralement à la société française. Donc accueillons-les et voyons-les enfin comme quelque chose de positif.
En quoi ça peut être une force alors effectivement pour un établissement, Peggy ?
Justement, la diversité des langues, les visions, l'ouverture. Nous sommes dans un monde multiculturel, ils ont beaucoup à apporter. Et moi je tiens à féliciter donc mes élèves de l'année dernière qui ont obtenu le DELF, qui ont été le chercher à la Sorbonne, puisqu'il y avait une remise officielle. Je tiens à les féliciter pour le CFG, puisque 100% des élèves ont obtenu le CFG.
C'est quoi le CFG ?
Le Certificat de Formation Générale, qui est un diplôme un peu en dessous du brevet des collèges. Je tiens à féliciter Fleurette, qui a obtenu son bac professionnel, Fousséni, son CAP de boulanger, Atoumani, Rabat, Aïcha, mais également beaucoup d'élèves. Et je pense aussi à Théodore.
Merci. Merci beaucoup pour cette spéciale dédicace pour tous vos élèves qui ont réussi. Merci beaucoup. Peggy Lelégard Diallo, vous êtes professeure et on le voit, toute cette énergie qui vous anime. Auteur des Primo arrivants africains et La voie professionnelle, réussite ou échec aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup à Lauriane Clément pour cette enquête sur ces classes d'accueil. Le livre donc sur les dispositifs Écrire Liberté à l'école des enfants migrants chez Le Mieux Édition. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier et Romain Dubrac à la réalisation. Merci pour cette semaine. Et très bon week-end à tous. En tout cas, lundi, Emmanuel Bastide revient avec les émissions Coach et David Acqueté. Très bon week-end.